Vatican News, le journal, il est 8h30.
Vague de colère à Porto Rico dans les Caraïbes. La maison du gouverneur a été assiégée cette nuit par des manifestants. Les évêques se retirent du dialogue national. Va-t-on vers un déblocage de la situation en Espagne? Pedro Sanchez semble voir le ciel s'éclaircir après le pas de côté du parti Podemos. À suivre les explications de notre correspondant. Une nouvelle fois, Ramush Haradinaj, le premier ministre du Kosovo, sera entendu par le tribunal spécial pour le Kosovo. Il a annoncé hier sa démission pour comparaître en tant que simple citoyen. Un espoir, un exploit historique n'est jamais renouvelé depuis. La mission Apollo sur la Lune, le pape Paul VI, passionné de conquête spatiale, était alors devant son écran pour suivre l'aventure. Et enfin, dans notre dossier, nous nous rendrons en Ukraine. 3 mois après sa victoire, le président néophyte Volodymyr Zelensky se retrouve demain face aux urnes. Analyse en fin de journal.
Le journal, Marine Oriot.
Bonjour à tous. Dans les Caraïbes outre-Atlantique, les évêques de Porto Rico invitent les fidèles à intensifier leurs prières pour les dirigeants et pour le futur de leur île. Dans cet état associé mais non incorporé aux États-Unis depuis 1952, la colère gronde contre le gouverneur Ricardo Rossello. Ils étaient encore des centaines cette nuit à assiéger sa résidence officielle, Marie Duhamel.
Oui, toute cette semaine et cette nuit encore, des stars de la musique, syndicalistes ou simples citoyens portoricains ont demandé sa démission. Le télégénique, ingénieur en biomécanique âgé de 40 ans, s'est lancé en politique sur les traces de son père en 2015, devenant après lui gouverneur. Son père lança de grands projets d'infrastructure qui plombèrent les finances du pays, de l'État, pardon. Et depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans et demi, son fils gère une faillite, un État sous perfusion américaine. Mais Ricardo Rossello ne paie pas les erreurs de son père. Il paie d'abord un mécontentement rampant après sa mauvaise gestion de l'ouragan Maria, dévastateur en 2017. Il sous-évalua alors le nombre de morts. Des cadavres dont il s'est moqué avec 9 de ses collaborateurs sur un groupe privé partagé sur le réseau Telegram et dont la presse a révélé des extraits la semaine passée. Ricardo Rossello paie aussi leurs insultes à l'égard de femmes, d'homosexuels, leurs moqueries vis-à-vis d'obèses, de personnes handicapées. Des propos inappropriés mais pas illégaux, s'est défendu le gouverneur. Celui-ci a néanmoins demandé pardon sur le parvis d'une église et promis, après que des centaines de milliers de Portoricains soient descendus dans la rue, une réunion d'urgence. Cette nuit, sa porte-parole a démissionné. Elle était traitée de corrompue par la foule. Il faut dire que le FBI vient d'arrêter 2 collaborateurs de Ricardo Rossello cette semaine pour des faits de corruption. Pour l'Église, la position du gouverneur est désormais compromise. La conférence épiscopale s'est retirée du dialogue national. Elle ne veut plus s'en porter garante.
Merci Marie Duhamel. 24 heures après l'annonce des Américains sur la destruction d'un drone iranien, la République islamique annonce avoir confisqué un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique outre transite un tiers du pétrole acheminé par voie maritime. Et c'est dans ce contexte que l'Arabie Saoudite a décidé d'accueillir des troupes américaines sur son sol. C'est une première depuis 2003 pour préserver la sécurité et la stabilité dans la région, annonce Riyad. Direction l'Espagne. Après des jours de poker menteur, la voie semble finalement s'ouvrir en vue de la reconduction au pouvoir du socialiste espagnol Pedro Sanchez. Le chef du parti de gauche radical Podemos a accepté de faire un pas de côté hier soir. À Barcelone, Luis Marsans.
Le pas de côté de Pablo Iglesias, le leader de Podemos, sera-t-il suffisant pour débloquer la situation d'ici la semaine prochaine et le vote de mardi? Difficile de le dire en tout cas, en renonçant à participer au gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, c'est un geste fort qu'a fait hier le leader de la gauche radicale. Depuis près de 3 mois pourtant, Iglesias conditionnait son soutien à l'investiture de Sanchez à une présence dans son gouvernement. Le socialiste s'y opposait, estimant que les divergences de vues avec le chef de Podemos étaient trop importantes, notamment sur la question catalane. Iglesias se retire finalement, mais il existe cependant la présence d'autres membres de Podemos au sein de l'exécutif pour investir Pedro Sanchez la semaine prochaine. Le socialiste, qui a besoin des voix de Podemos et des partis régionalistes pour gouverner, n'a désormais plus vraiment d'excuses. S'il refuse de faire de la place pour des personnalités de la gauche radicale, il n'aura pas les voix suffisantes pour son investiture. Il y aura alors de nouvelles élections en novembre prochain, les 4e en 4 ans. Un scénario difficilement imaginable alors que les Espagnols sont de plus en plus lassés par une classe politique incapable de faire le moindre compromis pour débloquer la situation. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Nouvel épisode dans l'énigme autour d'Emanuela Orlandi, fille d'un employé du Vatican, disparue il y a maintenant 36 ans à Rome, en Italie. Des ossuaires vont être inspectés dans la matinée, ossuaires du cimetière teutonique du Vatican, dans l'espoir de trouver les restes d'Emanuela Orlandi. Ce fut la pire tuerie en Europe après la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre de Bosnie, le massacre de Srebrenica en 1995. Hier, la Cour suprême des Pays-Bas a réduit la responsabilité de l'État néerlandais dans la mort de plusieurs centaines d'hommes musulmans. Les casques bleus néerlandais avaient recueilli des milliers de réfugiés dans l'enclave avant qu'elle ne soit attaquée par les forces serbes de Bosnie. C'est une surprise au Kosovo. Démission hier du Premier ministre Ramush Haradinaj. Il est convoqué au tribunal spécial pour le Kosovo à La Haye en tant que suspect. Les explications de Laurent Rouy.
Ramush Haradinaj n'en est pas à sa première confrontation avec la justice internationale. Premier ministre en 2005, il avait déjà démissionné pour se rendre au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il était accusé du meurtre de civils serbes et roms pendant la guerre d'indépendance. Acquitté après 3 ans de détention, il avait de nouveau échappé à la prison en appel en 2012. Enfin, il avait été arrêté en France en 2017, mais rapidement relâché. Chef de guerre emblématique du conflit, Ramush Haradinaj est vu comme un héros par les Albanais du Kosovo, alors que les Serbes voient en lui un criminel bénéficiant d'une impunité de fait à cause de ses responsabilités politiques. Habile négociateur, Haradinaj a souvent tenu des rôles politiques de premier plan. Il quitte le gouvernement en insistant sur l'organisation de législatives anticipées pour lesquelles il annonce déjà sa candidature. Si l'opposition arrive à un accord, ces hypothétiques élections pourraient ne pas avoir lieu. Mais dans le cas contraire, il y a fort à parier qu'Haradinaj sera soutenu dans les urnes malgré ses nouveaux déboires judiciaires. Belgrade, Laurent Rouy, Vatican News.
Énorme explosion hier en Chine dans une usine de gazéification dans le centre du pays. Sur 3 km, le souffle de l'explosion a fait voler en éclats vitres et portes d'immeubles. Au moins 10 personnes sont mortes et le bilan pourrait encore s'alourdir. Il s'agirait d'un accident. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, le 21 juillet 1969, à 2h56 temps universel, l'astronaute américain Neil Armstrong allunissait en direct à la télévision. Alors les images sont désormais célèbres, mais à l'époque, rares sont les personnes qui ont pu vivre cet événement en temps réel, à cause de la faible diffusion des téléviseurs ou à cause de l'heure tardive, surtout pour les Européens. Mais le pape Paul VI était, lui, devant un écran pour suivre ce premier pas. Il avait en effet suivi avec passion cette aventure humaine et technologique. Voyage dans le temps avec Xavier Sartre.
Paul VI is speaking to you, astronauts.
Le pape Paul VI s'adresse à vous, astronautes. Honneur, félicitations et bénédictions à vous, conquérants de la Lune. C'est par ces mots en anglais que Paul VI s'adresse aux membres de la mission Apollo 11 qui viennent d'allunir sous ses yeux. Le pape est passionné par la conquête spatiale. Le 13 juillet, déjà une semaine avant l'événement, il avait consacré l'Angélus du dimanche au départ des 3 astronautes américains, affirmant que la science-fiction devenait réalité et s'interrogeant sur l'homme qui est cet être capable de tant de choses. C'est donc naturellement que dans la nuit du 20 au 21 juillet, il est à Castel Gandolfo, sous l'une des 3 coupoles de l'Observatoire du Vatican. Devant un écran de télévision, il suit minute après minute la sortie de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin du module lunaire et leur premier pas sur le sol de la Lune. C'est après qu'il prend la parole.
Honneur à vous, uomini artefici de la grande impresa spaziale.
Honneur à vous, hommes, acteurs de la grande entreprise spatiale. Honneur aux hommes responsables, aux chercheurs, aux initiateurs, aux organisateurs et aux opérateurs.
Agli operatori.
Paul VI rend ainsi hommage aux hommes qui travaillèrent à cette œuvre qui élargit aux profondeurs célestes les limites du savoir et de l'audace de l'homme et qui fascine toujours autant aujourd'hui.
Xavier Sartre. C'est le plus grand parc éolien d'Afrique. Il a été inauguré hier au Kenya. 365 éoliennes situées dans une zone semi-désertique qui produisent déjà plus de 15% des besoins en électricité du pays. Il y a 3 mois, sa promesse de casser le système lui avait assuré la victoire en Ukraine. Volodymyr Zelensky passait de la fiction à la réalité. Le comédien incarnant à l'écran un enseignant devenu subitement président était élu à plus de 73% des voix, écrasant le chef d'État sortant Petro Poroshenko. Désormais, sa formation Serviteur du peuple, du nom de son ancienne série télévisée, va devoir transformer l'essai lors des législatives de demain. Sur son site internet, la formation formation se targue d'avoir lancé un défi au système et promet l'arrivée de nouvelles personnalités au Parlement. Des personnes prêtes à faire des changements pour nettoyer le pays de la corruption. De fait, sur sa liste, aucun député sortant n'a été admis. Le discours et la méthode du nouveau chef d'État semblent avoir fait ses preuves puisque son parti est crédité de 42 à 52% des suffrages, mais c'est cela dit très en deçà de son résultat d'avril. Sa promesse de réforme électorale n'a pas été tenue avant les législatives et son attitude vis-à-vis de Moscou interroge. Antoine Arjakovski est directeur de recherche au Collège des Bernardins. Il revient sur le positionnement de Volodymyr Zelensky face à Bruxelles et au Kremlin.
Son premier voyage à l'étranger, il l'a fait à Bruxelles. Il a montré des signes de continuité dans cette idée que l'Ukraine a comme orientation stratégique de intégrer l'Union européenne, d'intégrer l'OTAN. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de surprise. Et c'est du reste ce que souhaite maintenant la majorité de la population ukrainienne. Par contre, vis-à-vis de Moscou, là, il y a eu un vrai changement. Porochenko était très ferme dans son opposition à la Russie de Poutine, alors que Zelensky, dès son élection, il a fait partie de ceux disant qu'on n'était pas obligé de répliquer à des attaques venant de Russie. Ça a choqué beaucoup de gens parce que tout le monde veut la paix, bien entendu, les gens sont épuisés. Simplement, les gens constatent que ce discours, disons, plus mou, a finalement profité surtout à Poutine, qui très rapidement a développé sa politique d'attribution de passeports russes aux habitants du Donbass occupé. Et donc les gens comprennent que c'est pas ça la solution.
La situation économique en Ukraine est difficile. Est-ce que le parti du président se présente à ces élections avec un programme économique détaillé et précis ?
Il a été élu parce que les gens souhaitent qu'il y ait une nouvelle solution pour trouver un plan de paix et parce que les gens ne s'en sortent plus financièrement. Les réformes pro-européennes qui ont été adoptées ont été très radicales, et notamment les frais pour le gaz, l'électricité ont augmenté. Tout le monde attend une loi de privatisation des terres, maintenant qu'un cadastre a été établi. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que ça doit être une loi typiquement libérale, ou est-ce que c'est plutôt les citoyens ukrainiens qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut une dimension sociale pour protéger certaines catégories de la population? En fait, tout va se jouer là-dessus. Et la difficulté, c'est que Zelensky, qui n'a pas d'expérience, pour l'instant ne propose rien de très très clair.
Par rapport à ces réformes économiques, est-ce que c'est pas problématique qu'il y ait tant des proches d'oligarques que des membres d'ONG au sein du parti au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incohérence?
Pour l'instant, c'est justement pas clair. C'est très composite, cette liste. En revanche, il y a une autre liste qui est apparue, beaucoup plus homogène, beaucoup plus cohérente. C'est la liste du chanteur Sviatoslav Vakarchuk, un chanteur très populaire en Ukraine. Il a formé une liste pro-démocratique, pro-européenne, mais surtout très claire sur la lutte contre la corruption. Je pense que cette liste-là, qui s'appelle Golos, la voix, pourrait faire la surprise. Elle pourrait arriver derrière la liste Serviteurs du Peuple.
Est-ce que vous croyez à une alliance entre le parti du Serviteur du Peuple avec Golos? Est-ce qu'elle est possible?
Alors ça, je ne sais pas. Par exemple, pour la coalition, il y a beaucoup de gens qui craignent que Serviteurs du Peuple, qui risquent de l'emporter au moins à hauteur de 40% des voix, il suffirait qu'il s'allie avec le parti pro-poutinien de Medvedchuk, qui s'appelle Pour la vie, pour avoir la majorité des voix. C'est très possible. Il ne faut jamais oublier que l'Ukraine est un pays en guerre, et ça pèse terriblement sur les mentalités. Donc le discours qui consiste à dire la priorité c'est les échanges de prisonniers et des élections rapides dans le Donbass pour clarifier les choses, qui est le discours de Medvedchuk, ça pourrait contribuer à ce qu'il y ait une majorité, un peu comme à l'époque de Yanukovych, plus proche de la Russie que de l'Europe. Maintenant, tout est ouvert, c'est un scrutin mixte, à la fois proportionnel et majoritaire. Donc il va y avoir des tractations pendant tout l'été pour savoir qui appartient à quelle majorité. Et on y verra plus clair simplement début septembre.
Voilà, interrogé par Marie Duhamel, Antoine Arjakovski, directeur de recherche au Collège des Bernardins et auteur de « Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, anatomie de l'âme russe » publié aux éditions Salvador, était ce matin l'invité de la rédaction. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Retour de l'information tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une très belle journée.